Voilà, donc pour ce cinquième enseignement, je vous propose de continuer à vivre cette journée, ce samedi saint, comme je vous le proposais ce matin, dans l'attente, dans la confiance, dans l'espérance de la résurrection de Jésus, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Peut-être que certains d'entre vous nous rejoignent cet après-midi. Si tel est le cas, pas d'inquiétude. Il n'y a pas de prérequis. Peut-être que les ouvriers de la dernière heure peuvent être payés aussi bien que ceux de la première heure. Ça fonctionne parfois comme ça dans l'Évangile. Donc, voilà. Mais simplement, peut-être ce que nous pouvons demander, toujours hein, dans ces jours où nous nous mettons à l'école de Jésus, doux et humble de cœur, nous pouvons rendre notre cœur voilà, attentif, espérant la venue de l'Esprit Saint. Ce matin, je vous disais, l'enjeu, ce n'est pas simplement de célébrer la résurrection de Jésus. L'enjeu de cette fête de Pâques, nous allons célébrer dans quelques heures maintenant, des petites heures qui se raccourcissent, hein, l'enjeu, c'est d'accueillir la vie nouvelle. C'est au fond, d'être ressuscité. Le mystère de Pâques, ce n'est pas célébrer quelque chose qui nous est extérieur. Le mystère de Pâques, c'est célébrer la résurrection de Jésus, mais qui est aussi notre résurrection. Jésus ne ressuscite pas tout seul, Jésus ressuscite avec nous. Et donc l'enjeu, voilà, c'est que dans quelques heures, à la sortie de la vigile pascale, on puisse se souhaiter une bonne résurrection, se souhaiter une bonne vie nouvelle, se réjouir pour chacun d'entre nous, comme si, enfin, pas comme si, enfin, comme des hommes, des femmes qui sont nés à nouveau, vous voyez, enfin, c'est une nouvelle naissance, c'est génial, on va se découvrir, voilà. On se réjouit à la naissance d'un enfant, c'est super, on va se réjouir à la naissance de plusieurs centaines d'enfants ce soir dans la basilique, ça va être super. Bon, non, mais là, vous avez l'impression que je suis illuminé. Bon, voilà, mais bon, à 14h30, c'est 14h30, hein, il faut faire ce que... Bon. Alors, pour cet après-midi, je vous propose... Donc, ce matin, c'était plutôt autour de la Vierge Marie, la Vierge Marie qui était dans l'attente... Voilà, dans l'attente, et puis qui a accueilli l'Esprit Saint à l'Annonciation et aussi avec les apôtres à la Pentecôte. Mais cet après-midi, je vous propose de revenir aux disciples, aux apôtres, de revenir aussi aux apôtres dans un moment où ils sont dans un temps d'attente. Et le passage que je vous propose de méditer, c'est le passage qu'on trouve dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 20, versets 19 à 29, ce moment où les disciples sont enfermés au Cénacle et attendent la venue de l'Esprit Saint. Alors vous pourrez me dire, bon, ben Père Alain, vous avez 24 heures d'avance là quand même. Ce sera demain soir, ce sera dimanche soir. C'est une scène qui se passe effectivement au soir de la résurrection. Bon, mais d'une part, demain soir, je vous aurai plus sous la main. Et puis, d'autre part, on peut quand même s'identifier aux apôtres. Parce que certes, pour les apôtres, la résurrection est déjà passée, puisqu'elle a eu lieu le matin même, mais ils ne l'ont pas vraiment encore accueillie. Les apôtres sont encore dans l'attente, ils sont encore dans cette espèce de préparation à l'accueil de la résurrection, autant que préparation à la venue de l'Esprit Saint. Et c'est en ce sens-là, je pense, que ce passage de l'Évangile peut nous rejoindre. En ce samedi saint, ce jour où nous aussi nous sommes dans l'attente. Donc Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Ce même soir, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Là aussi, donc, d'abord quelques petits points de commentaires sur ce texte pour nous aider à plonger un peu plus profondément dedans. Et puis ensuite, voilà, je ferai 5 petites attitudes ou clés qui nous permettront de rentrer dans ce texte. Alors, voilà quelques éléments de commentaires sur ce texte. La première chose... J'ai envie de vous dire la même chose que ce que j'ai dit un peu sur la Vierge Marie ou ce que j'ai pu dire hier ou avant-hier dans les enseignements. Et ça vaut le coup de vraiment s'imaginer ces apôtres-là, enfin, des apôtres très humains. Hein, et éviter les deux excès. Il y a certains qui veulent canoniser trop vite ces apôtres. Ça, en général, on n'est pas trop tenté par ça parce qu'on sait que ça n'a pas été si simple que ça. Mais il y a aussi l'autre excès. Qui est voilà, de trop vite prendre les apôtres pour des imbéciles ou des ignorants ou des gens qui ne comprennent pas, etc. Hein, les apôtres, c'est qui? C'est vous et c'est moi. Hein. C'est vrai. Voilà, bah. Non, mais c'est vrai, on est des gens bien, non? Et puis, on a nos faiblesses. Voilà. Mais, non, mais parfois, il y a des trucs. À un moment, ça m'agaçait. Il y avait un truc qui circulait, vous avez vu passer l'espèce de blague cato un peu débile, comment ça s'appelle, les gens qui font des recrutements et qui fait un espèce de coaching pour Jésus pour lui dire qui est-ce qu'il faut choisir. Et le coach, il dit à la fin, le seul qui a un peu de potentiel, c'est Judas. Non, vous n'avez pas vu passer celle-là? Si, si, bah moi, elle m'agace parce que ça donne l'impression que Pierre, Jacques, Jean et les autres, en fait, c'était des espèces d'andouilles. Et ça sert à montrer quoi? Ça sert à montrer, vous voyez, Jésus, il est tellement fort qu'à partir d'andouilles, il peut faire des vrais apôtres, etc. Alors, oui, c'est vrai que Jésus, il est tellement fort, mais c'est pas vrai que Jésus, c'est des andouilles. Voilà, à partir de nous aussi, même si on n'est pas complètement des andouilles, Jésus peut faire quelque chose de grand. Bon, ben oui, on a nos faiblesses, vous voyez. Mais donc, quand vous réfléchissez, quand vous méditez sur les apôtres, vous vous dites, bah, c'est quelqu'un comme moi, et ça marche très bien. Bon... Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour les apôtres? Les apôtres, donc la première chose qu'on nous dit, c'est que c'est quand même pas la joie. Hein. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Alors, ils avaient peur des Juifs. Le premier petit raisonnement qu'on peut faire, vous voyez, c'est de se dire, c'est vrai, quelque part, là, pour le coup... Les disciples, on les comprend, on n'aimerait pas trop être à leur place parce que s'ils sortent de la maison, ils risquent d'avoir un soldat qui les attend, qui les emprisonne et qui les crucifie vite fait, bien fait. En vrai, non. Si un apôtre sort du Cénacle pour aller faire ses courses, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un soldat qui va l'arrêter. Ben pourquoi voulez-vous qu'il arrête? C'est pas un péché de quoi? Enfin, sur quoi est-ce qu'on l'arrêterait? Il a été disciple de Jésus, mais enfin, c'est pas c'est, Jésus, on l'a crucifié, c'est réglé. Non, le risque qu'un apôtre a s'il traverse la rue pour aller faire ses courses, c'est quoi? C'est qu'on se moque de lui. Eh, t'as vu ton Jésus? Tu t'es planté quand même. Ben, comme Pierre, on a eu Pierre à l'agonie, qu'est-ce qu'il risquait, Pierre? Ben, qu'on se moque de lui, c'est tout. Le disciple bien-aimé au pied de la croix, il y a quelqu'un qui l'a inquiété? Non, Jésus, ok, il gênait un petit peu les gens, bon, et puis on a fini par le crucifier, mais les apôtres, En fait, la seule chose qui est risquée, mais en fait, c'est un petit peu comme nous d'ailleurs. Enfin, les apôtres couraient à peu près les mêmes risques que nous si on parlait de Jésus au travail. Ou inversement, vous voyez, enfin, nous, si on parle de Jésus au travail, qu'est-ce qu'on risque? À peu près la même chose que les apôtres s'ils se baladaient dans une rue de Jérusalem le samedi saint. Non, le samedi saint, comme c'était le samedi, il n'y avait personne, parce que c'était Shabbat, mais bon. Voilà. Non, mais ce que je veux dire derrière, c'est que, en fait, cette peur des disciples, vous voyez, c'est pas une persécution déchaînée contre les apôtres, c'est quelque chose qui rejoint peut-être plus une espèce d'inconfort, d'instabilité. Voilà, enfin, on est troublé, on est embêté, on ne comprend pas, vous voyez. Et c'est plus proche, je pense, des situations que nous pouvons traverser, vous voyez, où, au fond, enfin, voilà, on l'aime, Jésus. Et puis, en même temps, on voit bien qu'on n'est pas complètement en phase, qu'on n'arrive pas complètement à être en phase, qu'il y a des trucs qui nous gênent et que si on commence à nous en parler, en fait, ça nous saoule. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et on voit bien que les disciples, effectivement, ils sont au cénacle, ils ont peur de sortir. Je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas aussi un peu peur d'être entre eux. Mais, ils discutent de quoi, les disciples, au cénacle? C'est quoi l'ambiance au cénacle, là? Non, non, pas encore. Là, le soir de Pâques. Là, quand on nous dit qu'ils sont enfermés, qu'ils ont peur des Juifs, franchement, l'ambiance au cénacle, elle devait pas être très drôle. Hein. Non, parce qu'en plus, ils sont là au cénacle, et ils se refont un peu le film des dernières heures. Et dans le film des dernières heures, il y a quelques passages qu'on aimerait bien avoir enlevés, quand même. Parce que Pierre, il voit bien les autres, là, qu'il regarde. Hé, Pierre, t'as fait le malin, hein? T'as pas été meilleur que nous, hein? Bon, nous, c'est vrai, on n'a pas été meilleur que toi. Enfin, vous voyez, du coup, l'ambiance au Cénacle, elle doit être un petit peu spéciale, quand même. Et puis même, d'ailleurs, il y a un problème là-dedans. Il est où, Thomas? Parce qu'on nous dit le soir que Jésus apparaît, et donc on découvre à ce moment-là que Thomas n'était pas avec eux. Mais alors pourquoi est-ce que Thomas n'était pas avec eux? Il était rentré chez lui découragé, une explication à ma gauche. Moi j'entendais ici à Paray-le-Monial, je me souviens des homélies du cardinal Barbarin qui disait, lui, Thomas il était déjà parti évangéliser. Mais pourquoi vous rigolez? C'est une bonne explication, pourquoi pas? Vous avez le droit de le penser comme ça. Moi, l'explication que je donne, vous en faites ce que vous voulez, comme ça, vous en aurez au moins trois et vous choisirez. Moi, je pense que l'ambiance, elle était tellement mauvaise entre eux que Thomas, ça le saoulait, il est parti. Il est parti chez des copains. Mais franchement, enfin, c'était une espèce d'ambiance de défaite. On a suivi Jésus pendant 3 ans et Jésus a terminé crucifié et nous, on n'a même pas été fichu de rester avec lui jusqu'à la fin. Enfin, franchement, de rester entre nous, ça ne va pas apporter grand-chose, quoi. Donc, moi, j'imagine, même l'Évangile ne dit rien là-dessus, mais j'imagine que même entre eux, ça devait friter un petit peu. Et puis, est-ce qu'il fallait continuer quelque chose? Et s'il fallait continuer quelque chose, c'est qui le chef là-dedans? Alors, c'est vrai que Jésus a bien dit à Pierre, sois le berger, enfin, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, mais est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit Pierre qui soit le chef de tout ça? Il l'a renié, lui aussi. Hein. Bon, bref. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, j'imagine qu'il y a quelque chose un peu de la désunion aussi entre eux. Depuis que Jésus n'est plus là, enfin, franchement, celui qui faisait l'unité de ce groupe de 12 apôtres, déjà, ils sont plus 12, ils sont 11. Il y a aussi ça, quand même. Hein. Ils ont vu. Enfin, ça commence à se réduire. Hein, parce qu'ils étaient 12. Plus un, plus Jésus, quand même. Bon, ils étaient 13. Jésus, il est mort. Judas, il a trahi, bon, puis voilà. Thomas s'est barré. Et dans 10 jours, il n'y a plus personne. Hein. Bon. Voilà, donc c'est quand même cette situation dans laquelle Jésus vient. Et puis Jésus va effectivement. En fait, Jésus va inverser la situation. La paix soit avec vous. D'ailleurs, c'est une phrase, hein, je sais pas, ça m'a marqué en lisant ce texte. Trois fois, Jésus dit la paix soit avec vous. Hein, deux fois le dimanche soir, et puis encore une fois la semaine d'après, le dimanche d'après. La paix soit avec vous. Hein, ce que Jésus vient donner, c'est il vient donner la paix. Il vient remettre les choses dans le bon ordre. Hein, ce groupe de 12, 11, 10, ils partaient en lambeaux, et Jésus vient. Voilà, les ressouder, Jésus vient les redynamiser, Jésus vient les remettre dans le bon sens, Jésus va supprimer leur peur, etc. Hein, et puis pour le dire simplement et assez rapidement, qu'est-ce que Jésus leur donne? Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Et souvent, quand je viens à Paray-le-Monial, il y a cette grande icône là, où avec cette petite phrase qui est marquée sur le livre, là, recevez l'Esprit Saint. Ici, Paray-le-Monial, c'est peut-être un lieu particulier hein, où nous pouvons être disponibles et puis, où il y a une espèce d'ouverture du ciel pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Hein, ce que Jésus donne, c'est recevez l'Esprit Saint. Mais attendez, Jésus, il est en avance là. C'est le soir de la résurrection. Moi, on m'avait dit que l'Esprit Saint, c'était 50 jours après, à la Pentecôte. Alors, les apôtres, ils ont déjà reçu l'Esprit Saint le soir de Pâques? Oh, ben, il faut croire que ce n'était pas réservé pour une seule journée. Donc, voilà, je vous le dis pour vous aussi, hein, on est le samedi saint. Et je vous ai dit ce matin, à partir de demain, on commence le temps de préparation à la Pentecôte. Oh ben, la Pentecôte, ça peut avoir lieu ce soir. Hein. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a pas. Heureusement que le don de l'Esprit Saint n'est pas réservé au jour de la Pentecôte. Hein, le don de l'Esprit Saint, et ça, certainement beaucoup d'entre vous, vous le savez bien, c'est que voilà, enfin, le Seigneur veut donner tous les jours son Esprit Saint, et particulièrement peut-être dans cette grâce de la résurrection. En tout cas, vous voyez, c'est la manière dont le décrit Saint Jean. On parle parfois de cette scène, hein, de la Pentecôte joannique. La Pentecôte dans Saint Jean, parce que voilà, dans la manière dont Saint Jean le décrit, l'Esprit Saint est donné le soir même de la résurrection. Donc voilà, on pourra repartir de Paray-le-Monial, en tout cas je vous le souhaite, en ayant déjà l'Esprit Saint. Et puis ben, on aura 50 jours pour déployer dans notre vie toutes ces potentialités de l'Esprit Saint. Et puis la Pentecôte, ce sera comme le feu d'artifice final, ce sera magnifique, non? Non? Bon, oui. Non, mais je vérifie quand même de temps en temps que vous ne dormez pas parce que c'est quand même un petit peu. Voilà. Hein? Donc voilà, on peut méditer ce texte-là comme la préparation des disciples qui reçoivent l'accueil de Jésus ressuscité et qui, avec Jésus ressuscité, reçoivent aussi son esprit, reçoivent l'Esprit Saint et sont transformés. Parce que, voilà, on va voir qu'effectivement. Ben, tout se remet en place après, ils vont pouvoir annoncer l'évangile avec courage, ils peuvent entendre la parole de Jésus hein, comme comment c'est moi aussi je vous envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils vont pouvoir être envoyés, ils vont pouvoir être rassemblés aussi, puisque la semaine suivante, Thomas est bien avec eux. Ils sont comme reconstitués par la venue de Jésus, par la résurrection de Jésus et par le don de l'Esprit Saint. Alors, voilà, à présent, donc, je vous propose cinq petites clés de lecture de ce texte-là, ou cinq manières de réaliser cette parole de Dieu dans notre vie. La première, elle est toute simple, c'est vraiment ce que je vous aurais dit toute la journée aujourd'hui. La première, c'est l'attente de l'Esprit Saint. Ce matin, j'avais évoqué l'attente d'une manière plus générale, mais je nous invite, chacun de nous, à attendre l'Esprit Saint, c'est-à-dire à être comme orienté, attentif à la présence de Dieu dans notre vie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attendre l'Esprit Saint? Comme je vous le disais ce matin, l'attente, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du tout même le vague espoir d'un hypothétique événement à venir. Attendre l'Esprit Saint, voilà, il y en a quelques-uns qui sont un peu comme ça. C'est ouais, peut-être que l'Esprit Saint pourrait venir dans ma vie, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'il passe chez les autres, mais que la langue de feu, elle passe au-dessus de chez moi, qu'elle arrive chez le voisin, quoi. Non, mais voilà, il y a à peu près la moitié d'entre nous qui sont comme ça. Mais bon, alors j'attends l'Esprit Saint, mais voilà, les trucs un petit peu fous, ça arrive toujours chez les autres. Mais c'est pas ça. Vous voyez, dans les 12 apôtres au Cénacle, enfin non, du coup, enfin 11 ou 10, ça dépend comment on compte, bon, ils l'ont tous eu. Ils ont tous reçu l'Esprit Saint. Mais nous aussi, on reçoit l'Esprit Saint. Attendre l'Esprit Saint, c'est une attente, et dans les mots que je vous donnais pour aujourd'hui, hein, attente et confiance, enfin, confiance que l'Esprit Saint nous est donné. C'est pour les autres, certes, mais c'est aussi pour moi. Et puis, enfin, ce qui se passe chez les autres, ça ne me regarde pas tant que ça, finalement. Mais on peut avoir la certitude, la confiance, que l'Esprit Saint est donné à chacun d'entre nous. Mais parfois, une manière de présenter l'Esprit Saint un petit peu spectaculaire peut nous donner l'impression, justement, que c'est, voilà, enfin, au fond, il y a une espèce d'élite spirituelle. Mais non, l'Esprit Saint est le plus démocratique qui soit. L'Esprit Saint veut se donner à tous, et en fait, il s'est déjà donné à tous. En fait, l'attente de l'Esprit Saint, c'est plus la réalisation de quelque chose qui est déjà donné. Qui est l'Esprit Saint? Il y aurait plein de manières, et je ne vais pas faire tout un enseignement sur l'Esprit Saint, on fera ça à la Pentecôte peut-être, mais au moins, parmi les définitions qu'on peut donner de l'Esprit Saint, je retiens celle-ci, en tout cas moi qui me parle particulièrement. L'Esprit Saint, c'est le maître intérieur. Le maître intérieur. Peut dire les choses un petit peu comme ça. On pourrait dire Jésus, le Fils de Dieu, c'était un peu comme le maître extérieur. Vous voyez, parce que Jésus, il parle aux oreilles nos oreilles concrètes. Quand on entend la parole de Dieu, ça passe par nos oreilles. Et ça vient résonner dans notre cœur. Mais vous voyez, il y a quelque chose. Jésus, on peut se l'imaginer d'une manière extérieure. L'Esprit Saint, vous ne pouvez pas vous faire des images de l'Esprit Saint. Ça ne marche pas. Même la colombe, ce n'est pas l'Esprit Saint. Hein. Mais par contre, l'Esprit Saint, c'est le maître intérieur. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit Saint? Ne croyez pas que l'Esprit Saint va d'abord parler d'une manière extraordinaire et spectaculaire. Il peut arriver que l'Esprit Saint s'exprime d'une manière extraordinaire, dans des charismes particuliers, etc. Et peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé, c'est une très bonne chose, et nous devons les accueillir avec gratitude. Mais voilà, c'est l'extraordinaire, au sens tout à fait littéral du terme. L'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est, c'est-à-dire, un espèce de bonus par rapport à l'ordinaire. Mais avant de s'intéresser à l'extra ordinaire, il faut s'intéresser et il faut vivre l'ordinaire. On a l'impression que c'est un peu moins fun, l'ordinaire. Hein. On va très vite, on voudrait de l'extraordinaire. Mais non, 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 non. Faites de l'ordinaire. La sainteté, c'est dans l'ordinaire, c'est pas dans l'extraordinaire. Hein. Et de manière ordinaire, l'Esprit Saint parle d'une manière discrète, habituelle, intime, au fond de notre cœur. L'Esprit Saint, les amis, il vous parle tous les jours, il vous parle tout le temps. Quand ça? Eh bien, quand je rentre en moi-même, quand je fais silence et que j'écoute cette voix intérieure qui parle dans mon cœur, dans ma conscience, au fond de moi. Et le drame de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne prennent plus beaucoup, ou que trop rarement, voire même jamais, ce temps du silence et de l'écoute intérieure, de l'écoute de cette parole de Dieu qui vient résonner au fond de leur conscience. J'aime bien cette invitation qu'on fait aux petits-enfants, mais que nous devrions davantage nous appliquer à nous-mêmes. Est-ce que tu écoutes la voix de ta conscience? Parce que la voix de ta conscience, c'est peut-être cette voix qui vient de toi-même, du plus profond de toi-même, mais c'est aussi et inséparablement la voix de l'Esprit Saint. Ce maître intérieur, C'est l'Esprit Saint et c'est lui qui nous guide. Voyez, si au moins nous commencions par ça, par avoir chaque jour ces 5 minutes de silence où nous écoutions la parole de Dieu qui vient résonner au plus profond de nous, qui vient nous indiquer le bien à faire pour aujourd'hui, qui vient nous indiquer aussi peut-être le mal à éviter, qui vient nous donner des petites suggestions, des petites motions, très, très discrètes, très humbles, comme la brise légère que le prophète Élie a accueillie et dans laquelle il a su reconnaître la présence de Dieu au désert. L'Esprit Saint, ce maître intérieur qui parle au plus intime de nous-mêmes et que nous peinons bien souvent à écouter. C'est l'exercice au fond le plus simple de la vie chrétienne, tellement simple finalement que souvent nous passons à côté. L'attention à l'Esprit Saint. Voilà, donc c'était au moins la première invitation. Je m'arrête là parce que sinon je suis parti pour 3 quarts d'heure là-dessus. Hein. Mais voilà, ben, en tout cas, accueillir l'Esprit Saint, peut-être ce soir en particulier ou cet après-midi, dans ce temps encore de préparation à la résurrection de Jésus, accueillons l'Esprit Saint. Deuxième attitude que je vous suggère en écho avec cette parole de Jésus, la paix soit avec vous. Accueillir la paix. La paix, je crois que c'est... Il faut toujours être vigilant avec les superlatifs, mais je vais l'utiliser quand même, mais je crois que c'est le plus grand des dons de Dieu. Alors vous allez me dire, on peut peut-être en trouver un autre, bon, je ne sais pas. En fait, ils se rejoignent tous, les dons de Dieu. La paix. La paix soit avec vous. Cette phrase, quand même, Jésus la répète 3 fois. Dans la liturgie de l'Eucharistie, je ne sais pas si vous avez noté, c'est une des phrases quand même qu'on répète à chaque Eucharistie. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et 2 fois. Et cette parole, elle intervient juste avant la communion. Au moment où nous recevons ce don de Dieu, nous ne le recevons pas indépendamment de la paix. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'échange ce geste de paix. Et j'espère bien que lorsqu'on s'échange ce geste de paix, on a la conscience qu'on est en train de se transmettre ce plus grand des dons de Dieu, qui est la paix. La paix, en fait, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Et je veux dire, c'est presque l'horizon de notre vie humaine et chrétienne. La paix. La paix intérieure, la paix extérieure. La paix dans notre cœur, la paix dans notre monde, la paix dans nos familles. Cette paix, comme le définit le catéchisme de l'Église catholique, hein, qui n'est pas simplement une absence de guerre, mais cette paix qui est... Qu'est-ce que c'est que la paix ? Au fond, je dirais que la paix, c'est la conscience, la certitude intime que... je suis là où le Seigneur m'attend et que je fais ce que le Seigneur attend de moi. Et pour le dire de manière négative, le trouble, l'incertitude, comme les apôtres là qui sont dans cette espèce de, comment dire, de malaise ou de je sais pas quoi, enfin de, en tout cas pas de paix, enfin, c'est le signe de l'absence de Dieu finalement. Et au contraire, quand Jésus arrive, vous voyez, comme une espèce de ballons qui se dégonflent là, enfin, une espèce d'apaisement intérieur. Vous avez vécu ça déjà, dans le ministère de la réconciliation, comme prêtre, je vois ça souvent, comme si même sur vos visages, il y avait la paix qui revenait au moment où vous recevez le pardon de Dieu. D'ailleurs même, c'est aussi quelque chose qui me marque, quand je vous donne le pardon de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je ne vous donne pas que le pardon. Dans la formule d'absolution, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils, il l'a réconcilié avec eux, par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Le pardon et la paix, les deux vont ensemble. Oui, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une situation dans laquelle nous ne sommes pas en paix. Oui, si, voilà, enfin... Si mon cœur est troublé pour telle ou telle raison, je ne peux pas m'en satisfaire et je dois demander au Seigneur cette paix profonde, cette paix du cœur. Ou attention, cette paix, elle ne veut pas dire que la situation sera facile. Je peux tout à fait être dans une barque agitée dans la tempête, et être en paix. C'est ce que Jésus demande à ses disciples d'ailleurs. Si Jésus est dans la barque avec moi, je peux vivre la tempête en paix. Si j'accueille l'Esprit Saint, je peux être en paix tout en ayant un travail qui est compliqué, avec des tensions qui sont insolubles. Je peux être en paix dans une situation familiale pas possible. Je peux être en paix lorsque je souffre. Je peux être en paix simplement parce que je sais que je suis à ma place et que je fais la volonté de Dieu. La paix. La paix fait partie aussi des béatitudes. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est la septième des béatitudes. Et pourquoi je souligne ça? Parce que souvent les pères de l'Église ont dit que les béatitudes c'était comme une espèce de marche d'escalier. Vous voyez, il y a une espèce de progression des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, c'est la porte d'entrée, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, etc., etc. Un petit peu comme si le Seigneur nous faisait cheminer à travers les béatitudes, les sept, huit béatitudes, la septième, l'avant-dernière, mais la huitième, on va dire que c'est celle qui couronne le tout, mais la septième, heureux les artisans de paix. Il y a cet horizon de la paix. Alors, voilà, cette invitation à vivre comme artisans de paix, c'est une invitation d'abord pour nous-mêmes, à accueillir la paix, à nous laisser apaiser par le Seigneur, à être des hommes et des femmes de paix, c'est-à-dire paisibles dans la paix avec Dieu, et à être par nous-mêmes ensuite des artisans de paix. Comment est-ce que, là où je suis, dans la situation dans laquelle je suis, je porte cette paix, comme Jésus au Cénacle? La paix soit avec vous. Alors bien sûr, je ne vais pas arriver à mon boulot avec mes collègues mardi matin en disant « la paix soit avec vous ». Mais voilà, d'une manière ou d'une autre, comment est-ce que par mon attitude, par mes paroles, par mes gestes, je porte la paix? Troisième attitude, mais qui est au fond inséparable de la paix que Jésus vient nous donner, c'est la réconciliation ou le pardon. Je faisais écho de la formule du sacrement de la réconciliation, que le Seigneur vous donne le pardon et la paix. Donc visiblement, il y a une espèce de... On n'a pas réussi à décrocher les deux. Vous voyez, peut-être qu'au moment où on a voulu faire la formule d'absolution, on se dit qu'il faut dire que le Seigneur te donne le pardon. Ah ben non, mais en fait, on ne pouvait pas décrocher de la paix. Le pardon et la paix, vous voyez, ça va ensemble. Alors, vous voyez, être artisan de paix, c'est évidemment aussi être des artisans de pardon, de réconciliation. C'est frappant quand même. Franchement, Jésus ressuscité, c'est la première fois qu'il apparaît à ses apôtres. Il y aurait tout un tas de choses à dire aux apôtres, franchement. On aurait pu débriefer un petit peu sur ce qui s'était passé. Et franchement, les gars, au Jardin des Oliviers, vous auriez pu faire mieux, quoi. On aurait pu donner quelques consignes. Bon, maintenant, les amis, vous vous préparez à recevoir l'Esprit Saint. Non, en fait, ça n'y a même pas eu besoin, puisque le Seigneur leur a donné sans qu'ils soient préparés. La seule chose que Jésus leur dit... Donc, recevez l'Esprit Saint, bon, très bien. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. La seule chose que Jésus fait le soir de Pâques, après avoir donné l'Esprit Saint aux apôtres, c'est leur donner un petit cours de catéchisme sur le sacrement de la réconciliation. Sur la réconciliation, même au sens large. Mais franchement, il y aurait beaucoup d'autres choses que Jésus aurait pu dire. La chose que Jésus a estimée importante de dire à ses apôtres le soir de Pâques, c'est le pardon des péchés. Mais pas juste le pardon, c'est pas un boulot juste pour les prêtres, ça. La paix soit avec vous, vous l'avez tous pris pour vous. Donc la suite, vous la prenez aussi tous pour vous. Remettez les péchés. Alors pas au sens, vous n'allez pas confesser vous. Mais... En même temps, nous avons chacun, à notre manière, à être des artisans de paix qui passent par la réconciliation, par des pardons, qui sont à donner et qui sont à recevoir. Et visiblement, Jésus relie ce don de l'Esprit Saint à cette réconciliation vécue. Et ça aussi, nous en faisons l'expérience. Dans la mesure où nous vivons la réconciliation avec Dieu et peut-être encore davantage avec nos frères, eh bien, nous nous rendons disponibles à l'accueil de l'Esprit Saint. Oh, je pense même, là aussi, ça fait partie du ministère de la réconciliation, mais j'ai quand même eu bien souvent l'impression que des hommes, des femmes, dans le sacrement de la réconciliation, en fait, recevaient aussi l'Esprit Saint. Au moment où nous nous réconcilions avec Dieu, au moment où nous nous réconcilions avec nos frères, ça marche aussi. On fait une expérience de l'Esprit Saint. Et, enfin, il y a une espèce d'ouverture du cœur qui permet de faire rentrer l'Esprit Saint. Lorsque nous n'avons pas pardonné, nous sommes quoi ? Nous sommes des cénacles fermés. Nous sommes comme les apôtres qui sont enfermés dans leur cénacle, dans leur refus de pardonner peut-être, et qui du coup se ferment aussi à la grâce de Dieu. Et au contraire, lorsque nous sommes ouverts à cette grâce de la réconciliation, eh bien là, il y a quelque chose de la présence de Dieu qui vient se réaliser. Alors, dans ces attitudes, peut-être justement pour vivre Pâques, là, cette attitude du pardon. Combien d'entre nous sommes, handicapés? Mais non, handicapé, c'est pas la bonne image que je veux prendre. Mais l'image, c'est en fait, on a un espèce de gros boulet accroché au pied parce qu'il y a un pardon que nous n'avons pas réussi à donner. Parce qu'il y a une espèce de haine qui continue à nous animer envers une personne qui nous a fait du mal et qui objectivement nous a fait du mal, peut-être. C'est même pas la question. Mais en fait, quelque part, cette personne, elle continue à nous faire du mal sans le vouloir. Parce que nous continuons à entretenir une espèce de haine. Peut-être que cette personne, d'ailleurs, elle est morte il y a longtemps. Peut-être que cette personne, elle nous a même oubliés. Peut-être que cette personne, même, elle regrette profondément le mal qu'elle nous a fait. Mais nous, on est toujours empêchés d'avancer parce qu'on résiste à ce pardon à donner. Je ne minimise pas la difficulté qu'il y a à pardonner. Je sais, et nous avons certainement tous fait l'expérience, chacun à notre mesure, de l'âme. Oui, de la difficulté qu'il y a à donner un pardon. Surtout quand ce pardon peut-être nous a abîmés, nous a blessés, a touché quelque chose de profond en nous. Mais à quoi bon en fait? Pourquoi est-ce qu'on retarde ce pardon? On n'est pas en paix, on fait de bien à personne. Je vais même dire, vous savez, le pardon que vous n'avez pas donné, ça n'embête pas l'autre plus que ça. Donc si le but c'est de continuer à embêter l'autre qui vous a fait du mal, ça ne marche pas non plus. Et puis de toute façon, ce n'est pas le but. Donc à quoi bon? À quoi bon, vous voyez, enfin, continuer à apporter ce boulet, alors qu'en fait, de déposer simplement devant le Seigneur ce pardon qui reste à donner, c'est ça qui va nous faire respirer, c'est ça qui va nous faire accueillir la paix, c'est ça qui va nous faire avancer. Voilà, peut-être pour certains d'entre nous, cette fête de Pâques peut être l'occasion de vivre cette attitude de la réconciliation. Ça va, vous êtes toujours là? Bon, ça. Ouf. Quatrième attitude que je vous propose, dans une direction un petit peu différente, un petit peu d'audace. Ce que Jésus va proposer à ses disciples, ça ne va pas être simple. Et il va falloir y aller en partant un petit peu à l'aventure. Ou l'audace, dans ce texte-là, je la lis aussi un petit peu. Moi, j'aime bien Thomas. Thomas, il a un petit peu d'audace quand même quand il dit si je mets pas la main dans les clous, etc. Ça c'est pas génial, je suis d'accord. Mais quand même, vous voyez, quand il se rapproche de Jésus et qu'il dit Il y a un petit peu d'audace de la part de cet homme. Et puis, voilà, plus largement, on le voit bien de la part des apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ben, ils vont y aller. Jésus leur a dit, moi aussi, je vous envoie. Bon, il va falloir qu'ils se poussent un petit peu, peut-être. Mais l'Esprit Saint va effectivement les accompagner dans cette audace. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'audace? Il y a ce côté un petit peu, ce côté de déséquilibre. Alors, soyez pas des déséquilibrés. Enfin, ou si vous l'êtes déjà, de toute façon, c'est pas grave. Hein, mais bon, on l'est tous un peu. Non, l'audace, c'est aussi celle. Je reviens à un autre personnage qui est celui de Pierre. L'audace, vous savez, c'est un passage que j'ai pas médité avec vous, mais du coup, je l'aurais évoqué. Vous savez, le passage où Jésus marche sur les eaux, et puis, bon, ils ont tous peur et tout ça, et à un moment, Pierre dit un truc qui est absolument débile quand même. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi en marchant sur les eaux. Ça, Pierre, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Le problème, c'est que Jésus lui a dit juste un mot, hein. Viens. Et alors là, mais simplement, vous m'imaginez le moment où, suivant que vous êtes droitier ou gaucher, vous le faites comme vous voulez, mais le moment où Pierre passe l'un des deux pieds, donc vous voyez, par exemple le pied droit, au-dessus de la barque là, vous voyez? Et le moment il commence à... j'y vais pas. Non mais avant de vous moquer parce qu'il a un peu douté et qu'il a commencé à couler. Et méditez sur ce moment où Pierre, ben, il sort de sa barque. Mais franchement, il fallait y aller quand même, hein. Moi, je confesse très humblement que au moment où Jésus aurait dit viens, je dis en fait, c'est plus simple, Jésus, si c'est toi qui viens. Oui, non, mais c'est vrai, enfin, franchement, je te crois, Jésus, hein, je te crois que si je descendais de la barque, je pourrais marcher sur les eaux, je te crois, hein, non, mais je te crois sur parole. Hein. Mais viens dans la barque, franchement, ce sera plus confortable. Et puis tu seras avec les autres, hein, tout ça. Bon. Hein, non, mais Pierre, il est descendu de sa barque. Mais ben, nous, c'est aussi un peu l'attitude à avoir. Enfin, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous pousse. Qui nous pousse effectivement dans une forme de déséquilibre. Ce que j'aime bien dans cette image de Pierre qui sort de sa barque, voyez, alors c'est presque physiquement. Vous voyez, quand on marche, hein, qu'est-ce que c'est que la marche? La marche, c'est une espèce de perpétuel déséquilibre. En fait, quand on marche, il n'y a pratiquement aucune des. Si on fait pause quand on marche, en fait, on se casse la figure parce qu'il n'y a qu'un des deux pieds, enfin, etc. Enfin, on est en déséquilibre pour avancer, quoi. C'est d'ailleurs le déséquilibre qui nous fait avancer. Oui, ben nous aussi, finalement. Dans votre vie chrétienne, je plaisantais tout à l'heure un tout petit peu, il faut qu'on accepte un petit peu de déséquilibre. Alors, voilà, il faut équilibrer les choses dans notre vie, etc. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, il faut qu'on accepte de ne pas rester dans une situation confortable, parce que là, on n'avance pas. Donc, acceptez, s'il vous plaît, des moments où ce ne sera pas confortable. Oui, tant qu'on fait ce qu'on maîtrise, on n'est pas sûr qu'on fait l'Esprit Saint, qu'on fait la volonté de l'Esprit Saint. Meilleur critère de vérification, moi je le dis pour moi, les moments où je suis pas loin d'être convaincu que ce que je fais c'est la volonté de Dieu, c'est quand je suis sûr que c'est pas ce que je voulais au départ. Et pour le dire inversement, si je fais ce que je voulais au départ, je suis à peu près sûr que c'était pas la volonté de Dieu. Mais l'Esprit Saint, il nous pousse toujours un peu plus loin. Écoutez, pas de stress, hein, c'est pas forcément des trucs complètement malades. Hein. Non, mais parce qu'il y en a qui se disent, bah, tout de suite, ça y est, je me vois en Afrique dans un dispensaire, machin. Bon. Mais pourquoi pas d'ailleurs? C'est peut-être ça le déséquilibre que le Seigneur vous propose. Mais voilà, en attendant, aujourd'hui, Enfin, comme je le disais hier d'ailleurs, posez-vous la question pour aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle le Seigneur me propose de recevoir l'Esprit Saint? Voilà, un peu d'audace, d'accord? Et puis, dernier point, puis ça permettra de terminer avec ça. Moi aussi, je vous envoie. En fait, le Seigneur nous envoie, chacun d'entre nous. On est envoyé là où, je veux dire, on est envoyé là où nous sommes, peut-être, c'est peut-être pas tout à fait la bonne manière de le dire, hein, mais un peu suite à ce point que je viens d'évoquer sur l'audace, un chrétien, c'est un envoyé. C'est-à-dire quelqu'un qui est parti d'un point de départ, on sait quel est notre point de départ, c'est l'appel de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui nous envoie, et quelque part on y est toujours accroché, vous inquiétez pas, on ne s'en sépare pas, mais on est toujours envoyé. D'une manière ou d'une autre, il nous faut considérer que notre raison d'être, c'est d'être des envoyés de Jésus. Pour le dire négativement, tant qu'on est à la maison, on n'est pas complètement chrétien. Quand je veux dire à la maison, c'est pas concrètement, mais tant qu'on est chez soi, dans le cadre qu'on maîtrise, qu'on s'est construit, tant qu'on n'a pas bougé, on n'est pas encore complètement dans la vie chrétienne. Les apôtres, dont on s'est peut-être un peu moqué de temps en temps, mais maintenant, après cette retraite, on arrêtera de se moquer d'eux, c'est sûr, hein, promis juré. Les apôtres, ils l'ont vécu effectivement en partant dans le monde entier annoncer l'évangile. Là aussi, pour chacun d'entre nous, cette vocation, elle se réalisera à sa manière. Mais notre vie, il faut bien considérer que nous la remplirons, nous l'accomplirons lorsque nous partirons vraiment. Et encore une fois, le partir n'est pas nécessairement un partir géographique, hein, mais est-ce que là où je suis, je veux dire, même avec mes collègues, avec ma famille, avec mes colocs, avec je sais pas, est-ce que je considère que je suis envoyé? Mais même mari et femme, est-ce que je considère que je suis envoyé par le Seigneur auprès de mon épouse, que je suis envoyé et eux par le Seigneur auprès de mon époux, qu'au fond ma raison d'être, ma vocation, c'est pour lui. Et ce envoyé, ça je l'ai évoqué aussi déjà hier, c'est la manifestation très concrète du fait que nous ne sommes pas appelés à nous garder mais à nous donner. Tant que nous nous gardons nous-mêmes, tant que nous nous regardons, que nous sommes un peu centrés sur nous-mêmes, sur notre nombril, nous ne sommes pas des envoyés, bon, c'est dommage, et puis en plus, un peu triste. Alors que, quand nous laissons guider effectivement par l'Esprit-Saint qui nous envoie, par Jésus, moi aussi je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, eh bien c'est là que nous vivons dans la paix, nous vivons dans la joie, nous vivons au souffle de l'Esprit-Saint. Ça remue un peu, mais c'est quand même génial. Voilà, un petit peu pour quelques attitudes. Je refais la liste, il y en a l'un ou l'autre qui en a perdu l'une ou l'autre. Attendre l'Esprit-Saint. Une deuxième attitude, vivre, accueillir et être artisan de paix. La paix. Troisième attitude, être des artisans de réconciliation, de pardon. Une quatrième attitude qui nous invite à l'audace. Et enfin, prendre conscience et accueillir cet envoi que le Seigneur fait avec nous. Voilà pour ces quelques éléments. Donc, là aussi, je redis ce que je disais en introduction. C'était le cinquième enseignement. Ce n'est pas la fin du Triduum. Il y a presque Le tridium, il va vers la vigile pascale, donc on n'y est pas encore, hein. Il reste encore. Mais s'il vous plaît, en tout cas, ne vous relâchez pas trop vite dans cette manière de vivre ce tridium. Et voilà, alors que ce soit dans le silence, dans la prière, dans les différentes propositions qui vous sont faites d'ici à la vigile ce soir, voilà, continuez à vous laisser guider et façonner par l'Esprit Saint pour vivre vraiment au souffle de l'Esprit Saint et puis pour vivre comme Jésus, avec Jésus, doux et humble de cœur.